Bonjour à tous, ils font partie des anglicismes qui ont envahi le quotidien de la plupart des salariés ou entrepreneurs d'aujourd'hui. L'open space d'abord, avec son lot de frustrations liées au bruit, au manque de privacité, à la difficulté de se concentrer aussi, même s'il permet sûrement un meilleur travail en équipe. Plus récemment, c'est un autre terme, celui de coworking, qui est apparu, un espace de travail commun, choisi cette fois et non plus subi par une communauté d'entrepreneurs ou de salariés indépendants souffrant souvent d'isolement. Une chose est sûre, l'environnement de travail a beaucoup évolué ces dernières années, il est même aujourd'hui en pleine mutation. Alors comment organiser l'espace pour en faire un lieu de travail? À quoi ressembleront les espaces de travail de demain? Quels seront leur impact sur les salariés et les organisations? Autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui dans le cadre des conférences vie professionnelle quelques repères proposées par le Collège supérieur où nous avons posé nos studios. Pour en parler avec nous, une architecte, Maria Dillon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, je l'ai dit, l'architecture, vous l'avez un peu dans le sang, puisque vous êtes issu d'une famille d'architectes. Vous êtes d'ailleurs la fille de Georges Adilon, qui est à l'origine de la construction du groupe scolaire des Maristes, qu'on connaît bien ici à Lyon. À vos côtés, un maître d'ouvrage, on va parler de la différence entre le maître d'ouvrage, Bernard Hébrard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur immobilier chez JL Events, qui est le leader mondial de l'événementiel, on le sait assez peu, son siège est à Lyon. Bruno Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie, directeur du cycle de conférences vie professionnelle quelques repères du Collège supérieur. On va démarrer la réflexion avec vous, Maria Dillon. J'aimerais savoir comment, en tant qu'architecte, vous vous y prenez pour aborder la construction d'un espace de travail, parce que ce n'est pas un espace anodin, un espace de travail. Par quoi vous commencez, en fait ?
Je commence pour un lieu de travail, mais également pour d'autres, pour tous les projets que j'ai à faire, d'ailleurs. Je commence par essayer de comprendre quels sont les besoins des gens qui sont en face de moi, entreprises, par exemple, ou autres. Et j'essaye de les faire parler de leurs besoins clairs, simples, trois bureaux ou six et un atelier. Mais également sur le fonctionnement de leur entreprise pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins, à eux, à cette entreprise-là, qui fonctionne forcément d'une façon différente d'une autre. Chaque structure a ses besoins précis en termes donc de lieu et puis d'organisation de travail. Qui travaille avec qui? Quels sont les bureaux qui ont besoin d'être en relation avec quel autre? Tout ça, s'il est bien exprimé, doit amener à faciliter le travail dans une entreprise. Dans les relations qu'ont les gens entre eux, entre les différents postes de travail.
Alors pour être très, très concret et comprendre ce que vous voulez me dire, j'aimerais qu'on parte d'exemples de projets que vous avez encadrés, que vous avez réalisés. On va démarrer par la maison des avocats. Expliquez-nous comment vous y êtes pris et quel était l'enjeu au fond dans ce lieu.
Quand j'ai fait ce projet, en fait, l'Ordre des avocats à Lyon avait acheté un plateau de bureau complet. Un et demi, en fait, un demi rez-de-chaussée de l'immeuble qui s'était construit et tout le premier étage. Et donc, l'enjeu était de créer des bureaux. Donc, sur une très, très grande longueur, il y avait plus de 50 mètres. L'idée, c'était un couloir central, un bureau à droite, un bureau à gauche, un bureau à droite, un bureau à gauche. Et bon, j'ai voulu casser ce principe qui est parfaitement anonyme et créer une circulation qui était un petit peu le centre du projet, qui n'était pas rectiligne mais qui avait des courbes et que j'ai présenté comme un chemin. Avec, bon, bien sûr, les bureaux qui se dispatchaient de part et d'autre. Mais
il n'y avait plus de grand couloir tout droit.
Et voilà, il n'y avait plus le grand couloir tout droit. Il y avait des espaces beaucoup plus larges qui étaient un petit peu lieux de rencontre au milieu de la circulation, d'autres plus resserrés. Et de ce fait, ça, avec des bureaux qui ensuite étaient différents les uns des autres. et donnait à tous ces lieux une identité propre. Et bon, la personne qui travaillait dans le troisième bureau à droite avait son bureau qui était...
Qui n'avait pas la même forme que celui du voisin.
Qui n'avait pas la même forme, mais ça permettait aussi, ça a permis aussi de créer des surfaces de bureaux en fonction de l'utilité, une personne dans un bureau ou trois dans un autre. Et donc voilà, chaque bureau avait une surface différente et une identité propre.
C'est étonnant ça, parce que quand on construit aujourd'hui des immeubles de bureaux, on se dit qu'il faut être un petit peu efficace ou efficient, il faut que l'espace, le mètre carré coûte cher, hein, donc il ne faut pas en perdre de l'espace. Donc comment on arrive à gérer cette tension entre cette personnalisation et puis l'efficience?
Mais justement, je pense qu'il n'y avait pas non plus d'espace perdu, si ce n'est peut-être quelques mètres carrés de circulation à certains endroits où elle était plus large qu'à d'autres. Mais je pense que ça n'a pas été du tout vécu comme des espaces perdus, mais où les gens pouvaient se croiser au milieu du couloir, à un endroit un peu stratégique où il y avait des bureaux qui avaient besoin d'être plus en relation les uns avec les autres. Et voilà, je crois que ça a été intéressant pour eux dans leur vie de travail.
Et en quoi, justement, c'est important pour pouvoir apporter quelque chose au travail, notamment au travail en équipe, d'avoir ces lieux personnalisés, hein. Cette personnalisation là, sur laquelle vous avez travaillé, qu'est-ce qu'elle apporte?
Je crois que effectivement, on n'est pas dans l'open space à ce moment-là.
Ouais, c'est tout le contraire.
Sûr, c'est tout le contraire. Mais ça correspondait à une demande, hein. Moi, l'architecte est là pour répondre à une demande précise et pas pour dire non, c'est un open space qu'il vous faut, quand ce n'est pas du tout la demande du maître d'ouvrage. Je crois que les gens, pour être bien dans leur travail, ils ont besoin, pour travailler efficacement, ils ont besoin d'être bien dans leur lieu de travail et de se sentir un petit peu chez eux. Hein. On le voit, les gens, ils installent dans leur bureau la photo de leur femme ou de leur mari ou de leurs enfants, des dessins, des choses comme ça. Et c'est une façon aussi de leur permettre de s'approprier un espace différent de celui de la personne qui travaille dans le bureau d'à côté.
Alors on va changer totalement d'espace, on va quitter l'espace feutré du bureau de la maison des avocats, puis on va aller dans un atelier d'une entreprise qui s'appelle Danialu, qui fabrique des matériaux en aluminium pour les toitures, notamment. Là, comment vous y êtes pris? Parce que c'est un contexte complètement différent.
Oui, alors là aussi, le point de départ de la démarche, c'est d'écouter le maître d'ouvrage. Et là, j'avais un maître d'ouvrage qui est très soucieux du bien-être de tous les ouvriers qui travaillent et de leur apporter de l'espace, c'est-à-dire non pas des surfaces strictement indispensables à leur activité, à leur manipulation, mais de leur apporter plus de surface. Pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres, qu'ils aient de l'espace, de l'air pour travailler, et de la lumière et de la vue. Souvent, on voit des ateliers avec des bandes vitrées en partie haute, où les gens on voit un bout de ciel, mais n'ont aucune vue directe sur l'extérieur. Là, c'était le contraire. Sa demande, c'était vraiment d'avoir que les gens qui travaillent puissent voir ce qui se passe à l'extérieur, puissent relâcher leur attention un moment pour regarder dehors, pour ensuite pouvoir se remettre au travail plus concentré. Voilà, c'est vraiment ça.
Mais comment vous y êtes pris concrètement pour être à l'écoute de ces ouvriers? J'imagine que le métier de la manipulation de l'aluminium, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Je veux dire, en position par exemple avec un bureau, quelque chose d'un peu plus classique. Comment vous y êtes pris pour être à l'écoute justement?
C'est d'aller voir les gens qui travaillent, de discuter sur le fonctionnement. Je leur ai fait d'ailleurs une zone de laquage de barres d'aluminium. Donc c'est un procédé assez technique, précis, où les barres d'aluminium sont trempées dans divers bains de préparation d'abord, ensuite sont décrochées, sont séchées, sont... Et il faut imaginer comment ça fonctionne. On se fait expliquer le processus de tout ça. Et à partir de là, comment les gens agissent, finalement. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, cet exemple, parce que dans ce processus de laquage, il y a donc deux zones. La préparation dans des bains, et ensuite, les barres sont poudrées et passent au four. C'est vraiment deux parties distinctes du processus. Et le fournisseur de ce matériel proposait un système en longueur. Et je me suis rendu compte, en essayant de comprendre comment ça allait fonctionner, qu'à un moment donné, les ouvriers allaient devoir décrocher les barres et les faire pivoter, leur faire faire un quart de tour. Et du coup, j'ai proposé, alors que c'était pas du tout, le fabricant c'était pas dans sa démarche, mais je leur ai dit, mais ça serait peut-être plus intéressant d'avoir les deux systèmes à l'équerre, pour ne pas avoir à faire pivoter les barres, mais à les décrocher et à les remettre tout de suite en translation. Et c'est ce qu'on a fait, et ça fonctionne très bien.
Donc, au fond, vous avez apporté au processus de fabrication, là ?
Oui, un petit peu, oui, un petit peu. Il faut discuter, comprendre. Et essayer de se mettre dans la peau des gens qui travaillent et du travail qu'ils ont à faire.
Alors, on va changer complètement d'environnement. On va partir dans un lycée ou un collège, les Maristes, je l'évoquais tout à l'heure. Vous y avez participé. Là, les Maristes, comment aborder la gestion de cet espace de travail encore différent ?
Encore différent, oui, avec des salles de classe, des classes qui sont censées être assez polyvalentes pour certaines, d'autres qui sont des laboratoires, donc il y a autre chose. Là aussi, c'est des discussions avec le directeur, avec certains professeurs, pour essayer de comprendre le...
Et vous en dites quoi, alors ?
Là aussi, l'idée, c'est d'aller vers... un confort des élèves qui passe aussi par le droit aux élèves de s'échapper un instant avec un regard par la fenêtre, en privilégiant là aussi les axes de vue pour l'orientation des classes.
C'est étonnant, c'est-à-dire que le directeur de l'institution des Maristes vous a dit c'est important que les élèves puissent un peu s'échapper, ne pas regarder tout le temps le tableau et pouvoir rêvasser en regardant dehors les arbres.
Oui, c'est ça, comme nous, comme tout le monde, il y a des moments où garder son attention pendant une heure en face d'un tableau, sur une personne qui parle. On n'a pas toujours la capacité de le faire et il y a des moments où on a besoin de faire un break de 15 secondes en regardant par la fenêtre pour revenir ensuite plus concentré sur ce pourquoi on est là.
Alors on va quitter le collège-lycée des Maristes pour rejoindre le siège d'un grand groupe international, celui de Jelly Events, avec vous Bernard Hébrard. Juste un mot sur la définition, parce qu'on emploie des termes dont on ne connaît pas forcément la définition. C'est quoi la différence entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre ?
Alors,
et qu'est-ce que vous êtes, vous ?
Moi, je suis maître d'ouvrage, madame, et maître d'œuvre. Un maître d'ouvrage, c'est le groupe, la personne qui a un besoin, créer un siège, une entreprise, une usine, une unité de production. Donc, elle cherche des financements, elle cherche un terrain, elle a des idées, elle dit « je veux mettre 500 personnes », etc. Elle établit un programme. Elle va voir un architecte qui traduit sur le papier, c'est-à-dire le maître d'œuvre, qui traduit sur le papier les idées exprimées par le maître d'ouvrage. Et puis le projet se monte petit à petit. Après, intervient les entreprises et il y a la fin des travaux.
Alors vous travaillez depuis plusieurs dizaines d'années à la construction de siège pour ce groupe GL Events. J'aimerais, avant qu'on aborde la question du tout nouveau siège là, qui vient d'être construit et inauguré l'année dernière, qu'on revienne un peu sur l'historique de ces sièges, parce que ça a beaucoup évolué, la manière de concevoir des lieux de travail, des bureaux.
Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent GL Events. En deux mots, ça a été créé, cette société, par 4 Lyonnais en 1978, dont le président actuel, Olivier Ginon, que je pense que tout le monde connaît, qui a arrêté ses études au milieu de sa deuxième année de fac de droit. Il était issu d'une famille de notaires. Et cette personne a créé une dynamique, a créé une dynamique pour arriver aujourd'hui à un groupe qui est le leader mondial de l'événementiel.
C'est eux qui organisent les Coupes du Monde de football, par exemple.
Non, nous n'organisons pas les... Pour parler de l'open space, et je vais vous en parler, un petit mot sur le métier de l'événementiel, pour mieux comprendre. Le métier de l'événementiel se compose de... Je dérape, mais ça servira. Le métier de l'événementiel se compose de trois parties. celui qui a l'idée de faire un événement. Le mariage de Dupont-Durand, une foire, la foire de Lyon, ou des événements comme la FIFA, comme les Jeux Olympiques, les COJO, etc. Donc ça, c'est des gens qui ont l'idée et qui vont aller chercher des partenaires, qui vont aller chercher des clients, qui vont faire venir du monde. Une fois que vous avez ça, vous vous dites « Où je le fais ?» Donc la foire de Lyon, c'est le palais des congrès, le mariage, c'est dans un espace, et les COJO, c'est dans des villes avec des appels d'offres mondiaux, etc. Ça passe par les championnats du monde de pompiers, le championnat du monde de cricket qui, auparavant, en petite anecdote, le championnat du monde de cricket génère autant d'argent que, que les COJO, les Jeux Olympiques. Bon, ferme la parenthèse. Et puis après, une fois qu'on a trouvé un endroit, qu'on veut faire venir du monde, etc., il y a toute la logistique à déployer pour recevoir les athlètes, les restaurants, tout ce qui va tout autour, la signalétique, la sécurité, les hôtesses, enfin, la nourriture, etc. Voilà.
C'est donc, ça votre métier.
Ça, c'est le métier. Alors, nous sommes partis au départ dans une toute petite entreprise. Nous nous sommes installés à Brignais, dans un siège social qui a été fait dans les années 88. Et il y avait ce besoin de communication interne, parce que notre métier va très, très vite. Contrairement aux maîtres d'œuvre, quand on construit quelque chose, il y a des délais d'instruction, il y a des appels d'offres, il y a les entreprises, il y a des délais à respecter qui sont très très longs. Or nous sommes dans un métier qui va très très vite. Donc il faut que l'on ait obligatoirement une communication perpétuelle entre tout le monde. Donc le siège de Brignais était fait avec un énorme trou central, mais avec des bureaux en périphérie de chaque niveau. Et quand on voulait s'appeler, on sortait du bureau et on s'appelait, on communiquait un petit peu.
Il fallait de l'autre côté du balcon, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ce sens de communication s'est avéré extrêmement payant. Donc, à un moment donné, nous avons eu besoin de place et il a été décidé, il y a 7 ou 8 ans, de créer un nouveau siège mondial, parce que bon, puis on avait pris un peu d'ampleur. Et le président, donc Olivier Ginon, entre guillemets, je pense qu'il est un petit peu claustrophobe, mais il a surtout besoin de voir tout azimut ce qui se passe. Parce que les affaires arrivent de tous les côtés. Enfin, nous allons les chercher, hein, mais les affaires arrivent de tous les côtés. Donc, il a vu ce projet suite à l'appel d'offres fait par la mairie, dans lequel il y avait une façade en verre et il n'y avait aucun poteau, que trois poteaux qui soutenaient l'ensemble de la structure. Alors, pour vous expliquer ces plateaux où il n'y a pas de poteaux, ce qui paraît inconcevable, c'est qu'il y a trois poteaux, dessus il y a une croix, on a construit le quatrième étage et tout l'immeuble est suspendu. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça sera volontiers qu'on pourra éventuellement regarder pour les emmener. Donc, c'est sans poteaux. Donc l'objectif a été de se dire, on fait tout notre siège social en open space.
Alors attendez, l'open space, parce qu'on en... c'est pas nouveau l'open space, on en parle quand même depuis longtemps. Puis certains disent, oui, l'open space c'est bien, mais enfin il y a du bruit, c'est compliqué à gérer. Enfin, les gens le vivent pas forcément très bien. On en revient un petit peu, j'ai envie de dire. Alors vous, qui avez conçu cet espace de travail qui est très récent, comment vous avez pris ça en compte? Comment vous l'avez appréhendé?
Alors, avant de venir ici, les gens ne travaillaient pas en open space. Ils travaillaient à la Cité internationale qu'on avait construite il y a 7 ou 8 ans. Et ils travaillaient. Là, on a fait une première démarche où on a mis un certain nombre de bureaux et au centre un open space qui n'a pas été très, très bien réussi parce que l'acoustique dans un open space est pour moi un des éléments très, très importants pour le bien-être. Et là-bas, l'acoustique n'a pas été très, très bien réussie. Donc, quand on leur a dit qu'on allait faire un grand open space, ils nous ont demandé, parce qu'on a quand même un certain dialogue avec nos salariés, ils nous ont demandé d'apporter beaucoup d'attention à l'acoustique. Ce qui a été fait et ce qui a été réussi. Et de ce fait, aujourd'hui, un an et demi après avoir déménagé, les gens acceptent de travailler en open space. Il y en a toujours une frange qui l'accepte mal. Mais l'open space, quand les gens travaillent dans leur bureau, vous les retirez d'un confinement de leur bien-être, de leur petite maison au sein de l'entreprise, etc. À partir du moment où dans l'open space, ils se sentent libres de passer certains coups de fil ou ces moments de détente dont vous parliez tout à l'heure, de s'évader un petit peu, etc. Et de pouvoir ne pas être dérangé lorsque vous travaillez à votre poste de travail.
Oui, c'est un vrai sujet, ça.
Les gens acceptent de travailler en open space. Donc, encore quelques instants. Donc, il a été fait au fil de l'évolution de ce projet. On a mis un certain nombre de bureaux, mais complètement vitrés, c'est-à-dire tout le monde se voit, mais il y a des endroits un petit peu plus confidentiels parce qu'il y a des moments où on a besoin de travailler. Autre chose très importante dans un open space, il faut réserver aux gens qui travaillent dans l'open space des petits endroits où ils peuvent s'isoler, discuter avec un responsable, avec quelqu'un d'autre, et pouvoir s'isoler.
Avoir la confidentialité.
Avoir la confidentialité. Mais dès qu'on revient au travail, naturellement, vous revenez dans l'open space et ça ne pose aucun problème.
Et même le patron, lui aussi, travaille en open space.
Non. Alors, ça a été quand on a commencé le projet, il m'a dit, Bernard, je veux l'open space comme tout le monde. Il revenait des pays nordiques, de Norvège ou de je ne sais plus où, dans un grand chaise social où le grand patron est en open space. Et puis au fil des temps, on s'est réservé quand même.
La culture française a pris le dessus.
Oui, la culture française à certains endroits a pris le dessus. Mais, je veux dire, à 95%, les portes des bureaux sont toujours ouvertes.
Alors, on va écouter le philosophe pour parler de ces espaces de travail, Bruno Roche. Oui. J'aimerais que vous nous parliez de l'espace, déjà, hein, et des différentes représentations de l'espace qui ont pu être élaborées dans l'histoire de la pensée.
Oui, Philippe, je crois que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les représentations du temps ont d'abord prédominé dans la culture par rapport à l'espace. L'espace, c'est ce qui s'organise, par exemple, dans la cité. Mais le temps a une dimension métaphysique beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. La mémoire, l'histoire, tout cela donc rythme davantage la vie humaine que le rapport à l'espace. Or, je crois que nous assistons aujourd'hui à un renversement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je pense que nous pouvons dire que nous vivons un certain effacement de la dimension du temps. Réduite d'ailleurs à l'instantanéité et à une certaine valorisation, au contraire, donc, de l'espace.
C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'on est pris énormément aujourd'hui avec le rythme effréné des gens, puis avec les nouveaux moyens de communication, par une évolution, une mutation du rapport au temps et dans un espace de plus en plus réduit qui est celui de l'espace urbain.
Oui, mais en même temps, soyez attentifs au fait que nous nous percevons nous-mêmes selon, je dirais, la modalité du réseau. Nous sommes tous pris dans des réseaux plus ou moins larges, plus ou moins complexes. Et ce rapport au réseau est, me semble-t-il, plus significatif que le rapport que nous pourrions avoir à un temps long qui serait justement soit le temps de la mémoire, soit le temps d'une projection qui devient au fond de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Alors pour répondre à votre question, ensuite j'utiliserai une distinction qu'a proposée Michel Foucault. Alors, ça date déjà un peu. En 1964, Foucault a donné une conférence au Cercle d'études architecturales et il a distingué en fait trois histoires de l'espace. Une première histoire de l'espace où il considère que l'espace, c'était l'espace de la localisation, c'est-à-dire qu'il y avait finalement une place pour chaque chose. Cet espace était fortement hiérarchisé, avec évidemment en son centre l'espace sacré, puis donc la déclinaison des espaces profanes. Et Foucault remarque ensuite, avec l'apparition donc de la modernité et de la science, cet espace de la localisation où chaque chose a une place qui correspond finalement à un cosmos organisé, vole en éclats et surgit dès lors ce qu'il appelle l'espace de l'étendue. Alors, dans l'espace de l'étendue, finalement, le lieu, c'est le point où on se trouve. Et Foucault fait remarquer que cet espace est un espace isotope. C'est-à-dire que toutes les parties de l'espace, c'est la caractéristique de l'espace scientifique, donc se ressemblent de telle sorte qu'étant isotope, on peut le diviser, on peut le distinguer, on peut le parcelliser. Il n'y a plus cette épaisseur de signification et de sacré, le hieros de hiérarchie, le hieros c'est le sacré, cette dimension du sacré donc, qui structure et ordonne l'espace.
On peut couper en morceaux, quoi.
Oui, et Foucault nous dit finalement l'époque du 19e siècle et marque l'émergence d'un nouvel espace qui est, dit-il, l'espace de l'emplacement. Où là, ce qui devient déterminant, ce sont les rapports de voisinage. Comment voisinons-nous entre nous, ensemble, de telle sorte, dit Foucault, qu'au XIXe siècle, l'élément déterminant ne devient plus l'espace, mais sa limite, c'est-à-dire finalement la frontière, ce qui s'applique très parfaitement bien donc à la géopolitique. La problématique de l'espace, c'est la problématique de ces zones qui sont des zones frontières, qui sont peut-être aussi d'ailleurs des zones indéterminées où se fait le passage en quelque sorte.
Alors, recentrons-nous sur notre question qui est l'espace de travail. En quoi la pensée de l'organisation de l'espace de travail a évolué et comment?
Alors, écoutez, là c'est très très clair. J'ai évoqué donc la conception scientifique de l'espace, l'isotopie donc de l'espace. Eh bien, on va voir une application directe de cette isotopie à la naissance de l'usine. Le passage au 19e siècle de l'atelier à l'usine, c'est le passage d'un espace aléatoire, c'est-à-dire un espace, au fond, qui dépend d'une localisation spécifique, particulière, c'est bien foutu, mal foutu, c'est en pente, c'est pas en pente, la bâtisse est historiquement construite de telle et telle manière, à un espace isotope, donc, qui est l'espace de l'usine, qui va être conçu d'une manière entièrement rationnelle, selon, au fond, la rationalité scientifique. Ce qui est très intéressant, vous voyez, dans le passage de l'atelier à l'usine, c'est-à-dire, au fond, le passage au taylorisme, c'est qu'on va vaincre deux aléas. Le premier aléa, c'est l'aléa de l'espace, que l'on va rationaliser, que l'on va structurer. Le deuxième aléa, c'est l'aléa de la conduite de l'ouvrier, qui arrive avec ses outils, avec ses méthodes, avec ses manières de faire. Et on va réduire donc cet aléa dans une prévision scientifique ou dans une structuration scientifique. Alors, ce serait intéressant, parce que j'écoutais Maria Dillon dire « Ah ben oui, alors il faut interroger les uns et les autres pour savoir comment ils travaillent. » Alors, avec le taylorisme, c'est très simple, on n'interroge personne. Il y a un bureau des études, il y a un bureau des ingénieurs.
Qui décide de la manière de faire.
Alors, c'est Philippe, mais c'est plus que ça, qui mesure le temps de manière scientifique et qui mesure l'espace de manière scientifique et qui mesure les quantités de mouvements dépensés dans l'espace. Et toute cette mesure scientifique donne le fameux « one best way » que chacun doit appliquer. Alors, vous voyez, quand on se demande pourquoi, finalement, la classe ouvrière a connu tant de révoltes, finalement, au XIXe siècle, eh ben, on comprend très bien, parce qu'elle a été complètement brisée. Elle a été brisée dans sa culture propre par une organisation scientifique qui a à la fois rationalisé le temps et rationaliser l'espace. Elle a été brisée, je dirais, sans contrepartie, mais parce que le pauvre Taylor, au fond, disait « Mais vous verrez, ils seront finalement contents, parce qu'au bout du compte, ça les libérera de l'emprise d'un contremaître inattendu et imprévisible qui a ses têtes. »
Qui est caractériel.
Qui est éventuellement caractériel, on en connaît tous. Je ne suis pas certain que l'organisation taylorienne, d'ailleurs, nous ait complètement débarrassé des caractériels.
Alors j'aimerais qu'on évoque aussi un espace ou un type d'espace qu'on évoquait tout à l'heure avec Bernard Hébard, notamment c'est l'open space. Parce que c'est un concept en soi, l'open space.
Oui, tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que les premières études sociologiques commencent à être à peu près, à être un peu sérieuses, à avoir un peu de scientificité autour de cette problématique de l'open space. Je crois que Maria Dillon et Bernard Hébrard l'ont bien dit. L'open space, en fait, bon, pose un certain nombre de problèmes techniques. De fait, bon, le problème du bruit, le problème de l'espace vital, de l'espace à soi. Bon, on pourrait faire des choses très philosophiques sur le corps propre, sur finalement la nécessité pour le corps d'avoir son espace dans lequel il se meut, qui varie d'ailleurs, semble-t-il, en fonction des cultures. Les cultures méditerranéennes n'ont pas la même conception de l'espace propre. Bien, il y aurait des choses assez théoriques à faire autour de tout ça. Moi, je crois que c'est pas vraiment le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de voir plutôt une espèce de résistance française, mais on a l'habitude, bon, nous avons nos spécificités, par rapport aux pays que vous avez cités, par rapport aux pays anglo-saxons en particulier. Et je crois que c'est lié au fait que... Alors, vous voyez, par exemple, un projet qui dit « tout le monde en open space » et ça se finit par 10 bureaux pour le comité de direction et un bureau de 70 mètres carrés pour le président. Vous voyez, donc, il y a quand même un écart entre ce qui est visé dans l'intention et puis le résultat. Alors, certes, il y a des questions de confidentialité, etc., mais je crois qu'il y a autre chose. Il y a l'idée que... Il y a chez nous, et Philippe Diribarne, dans La logique de l'honneur, l'a parfaitement montré, une très grande importance encore des signes statutaires. Et l'espace a toujours été un instrument de pouvoir, un signe de pouvoir. Le mètre carré que je contrôle, le nombre de mètres carrés que je contrôle, a toujours été un signe de pouvoir. Et ça, je crois qu'on ne peut pas, en quelque sorte, l'effacer. En tout cas, on peut difficilement l'effacer dans une culture qui attache tant d'importance au statut. Et Diribarne a bien montré que d'autres cultures, la culture anglo-saxonne par exemple, accordera beaucoup plus d'importance au contrat ou à la compétence. Non, nous sommes fondamentalement monarchistes et nous le restons. Même dans les post-révolutionnaires, surtout dans l'époque post-révolutionnaire, et nous voulons être le roi, et le statut est important. Et de ce point de vue-là, je pense que l'open space peut être vécu, je dirais, comme un signe de déclassement, c'est-à-dire, au fond, comme étant identifié à un espace déclassé. Et je crois que les résistances en France, de ce point de vue-là, donc, sont peut-être plus importantes qu'on ne les constate dans d'autres pays. Mais à Harvard, par exemple, il y a une chaire de management qui a un département qui s'occupe de l'espace et du travail et qui donc produit les premières études autour de cela. Le thème, juste peut-être une minute pour vous dire que le thème des chercheurs aujourd'hui, c'est plutôt la thématique de la transparence. Une forme finalement de transparence qui tue, ou une forme de transparence qui inquiète, ou une forme de transparence qui angoisse, au bout du compte. Voilà, c'est plutôt autour de ces thématiques-là, du point de vue psychosociologique, qu'on cherche.
RCF, Philippe Lansac.
Bienvenue sur RCF, si vous nous rejoignez, nous avons posé aujourd'hui nos studios au Collège supérieur dans le cadre du cycle de conférences Vie professionnelle quelques repères dont RCF est partenaire. Comment organiser l'espace pour en faire un lieu de travail? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec nos trois invités, Maria Dillon, architecte, Bernard Hébrard, directeur immobilier chez G-Events, et Bruno Roche, directeur du cycle de conférences Vie professionnelle quelques repères au Collège supérieur. J'aimerais que vous réagissiez un peu à ce que nous a dit Bruno Roche, là, le philosophe. D'abord, Maria Dillon, sur comment appréhender cette question du pouvoir dans une organisation. Vous qui êtes amené à construire effectivement un lieu, vous avez aussi des commanditaires. Et avec cet enjeu du pouvoir, comment vous avez réagi à ce qu'a dit Bruno Roche sur ce sujet? Comment vous l'abordez?
Oui, je trouve que c'est très, très intéressant. Pour moi, l'architecte n'a que le pouvoir de ne devrait avoir que le pouvoir de transformer des mots et des besoins en volume et en espace, mais pas de dire c'est comme ça qu'il faut faire.
Et... parce que ça arrive de temps en temps avec les grandes stars de l'architecture. Il y en a quelques-unes en France.
Oui, oui.
Qui imposent leur vision, mais qui ne sont pas forcément très pratiques et adaptées au mode de fonctionnement.
Pour moi, c'est vraiment un abus de pouvoir. L'architecte ne devrait être que le moyen de transformer des besoins en espace et arriver à les construire pour que l'entreprise ou n'importe qui d'autre, pour n'importe quel projet, se retrouve avec des lieux adaptés à leurs besoins en fonction de... voilà, mais l'architecte ne sait pas que c'est... comment dire, ne doit pas imposer une façon, une organisation de travail. Il n'est pas là pour ça.
Mais alors là, on parle du pouvoir de l'architecte, mais comment vous réagissez face à une organisation où vous êtes dit, tiens, je vais dessiner quelque chose, et puis vous apercevez par rapport à une organisation et ses codes de pouvoir entre les chefs et les autres, qu'il fallait prendre ça en compte.
Ben, c'est l'objet de nombreuses discussions et réunions avec un maître d'ouvrage où, lors d'une première réunion, on écoute des besoins, on essaye de faire parler le plus possible les gens qu'on a en face de soi, pour transcrire ça, pour faire des dessins, pour commencer à faire une organisation d'espace, pour ensuite retourner vers le maître d'ouvrage, rediscuter, revérifier que tout ça parte bien dans le bon sens. Donc après cette histoire de pouvoir d'un maître d'ouvrage par rapport à aux personnes qui vont travailler dans un lieu, on peut essayer d'y mettre son grain de sel, mais
Bernard Hébrard, la réaction quand même assise. Bruno Roche, pardon, hein, parce que sur cette question du pouvoir et le rapport à l'open space en France, à notre France royaliste, que ça vous a fait peut-être réagir quand même.
Oui, un petit peu. Je pense que le maître d'ouvrage, c'est quand même lui qui dirige le bateau dans une entreprise. Il faut qu'il y ait un dialogue avec les salariés. C'est obligatoire parce que les salariés sans le patron et le patron sans les salariés, ce n'est rien. Mais c'est quand même lui qui donne l'impulsion. Et de donner l'impulsion d'aller vivre dans un open space, ça implique certaines choses. Qui détient le savoir ne détient pas le pouvoir. Donc quand vous parlez à l'open space, que vous passez des coups de téléphone, je ne veux pas vous écouter. Enfin, je m'adresse à vous, mais j'entends ce que vous dites. Donc, une partie de votre savoir, je l'intègre. Et de ce fait, ça fait grandir l'entreprise. Donc, enfin, pour moi, il y a une véritable stratégie derrière ça. Et je reprends ce que vous disiez, la transparence. La transparence, ces bureaux en verre que l'on a choisis, donne cet esprit de communiquer, de se faire voir, et on ne doit pas se cacher dans une entreprise. On doit tous être ensemble. Nous formons pas une armée, mais on dit que entre nous, on part au combat, on est des guerriers. Parce qu'on est, nous sommes tous nous devons être entreprenants. Donc c'est ce côté, même si on s'isole, il faut qu'on nous voie. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on fait partie d'une entreprise avec une stratégie. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais quand on est dans une entreprise, enfin moi j'adhère à ce projet-là, en plus de ça je le dispense, et je trouve que ça marche pas mal.
Un mot sur le rapport à la culture, parce que vous êtes dans une entreprise qui est très internationale, qui travaille dans tous les pays du monde. On imagine, et on évoquait les pays du Nord tout à l'heure, que l'appréhension de l'open space n'est pas la même, effectivement, dans les pays anglo-saxons, en France, je sais pas, en Asie, en Amérique du Sud. J'imagine que vous avez des employés du monde entier. Comment vous gérez ça et vous intégrez cela ?
Alors... la stratégie que je viens de vous indiquer, on l'applique en France. Surtout à Lyon, qui est la tête de la maison et où on veut montrer à tous nos salariés comment l'on souhaite fonctionner. Et là, on y arrive sans problème. Dès que l'on va dans les agences, etc., ils font un petit peu d'open space, mais... il y a quand même le chef qui aime bien s'enfermer, c'est plus compliqué. Et quand on va à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Nous ne sommes pas comme une société américaine qui arrive et qui dit, voilà, on fait comme ci ou comme ça. Donc on essaye de toujours composer. Mais dès qu'on arrive dans les pays même limitrophes de la France, c'est compliqué.
Bruno Roche.
Moi, tout ça m'inspire une remarque, c'est que dès lors que l'espace est entièrement ouvert, alors évidemment, il y a des salles de réunion, il reste des bureaux, mais ce qui disparaît, au fond, c'est l'espace privé, même s'il n'y a pas d'espace privé dans une entreprise. Tous les espaces sont les espaces de l'entreprise. Mais j'entends par privé un espace, au fond, dans lequel pourrait avoir lieu un certain rapport critique, au fond, à ce que l'on fait ou à ce que l'on nous demande de faire. Je suis attentif au fait qu'il n'y a pas de société, finalement, société au sens philosophique ou sociologique du terme, il n'y a pas de société dans laquelle il n'y ait pas, au fond, d'espace réservé à ce qui doit, si je puis dire, se faire ailleurs. C'est-à-dire ce qu'on pourrait nommer d'espace critique. Comme si finalement certaines activités ou certains points de vue devaient trouver leur expression dans des lieux qui ne sont pas tout à fait des lieux, qui ne sont pas intégrés en quelque sorte aux lieux de vie sociale, mais qui constituent donc une forme de lieu de résistance ou de lieu de réaction ou de lieu de critique, donc. Et je trouve que le risque de l'open space, c'est que précisément disparaisse cet espace critique et au fond engendre un renforcement de l'attitude de soupçon, de surveillance, de contrôle, de critique retenue, et au bout du compte, une forme d'oukase sur toute forme de propos qui justement serait immédiatement interprété comme étant le propos d'un guerrier qui veut pas faire la guerre ou qui veut pas aller dans le même sens ou pas aller à la même vitesse. Je suis très sensible, moi, dans mon travail de consultant, au fait que plus on monte dans les étages des entreprises, plus, évidemment, la moquette est épaisse, plus les tasses donc, sont en porcelaine et on se crame par les doigts dans des gobelets en plastique, mais surtout par le fait que, comme par enchantement, disparaît complètement tout esprit critique, c'est-à-dire toute vraie liberté. Et donc, si vous voulez, l'open space, c'est intéressant, mais je crois que, au bout du compte, les entreprises, surtout dans le type de management vers lequel on va, devront de plus en plus intégrer, au fond, ces lieux ou ces espaces dans lesquels une critique constructive sera possible. Et je crois, je ne veux pas me fâcher avec M. Hébrard, mais je crois que de ce point de vue-là, le modèle de la guerre, le modèle du guerrier, est un modèle totalement périmé du point de vue du management. Je le pense vraiment. Je pense que ce n'est pas du tout le modèle vers lequel on va. Je crois que ce modèle est périmé et je crois que ce ne sont pas des armées qui ont tous le doigt sur la couture du pantalon ou qui sont droguées à je ne sais quelle addiction. Pardon d'utiliser des termes peut-être un peu violents, mais non, je crois que nous aurons de plus en plus à compter sur l'innovation, la puissance d'innovation des individus, et que bon an mal an, l'innovation, vous savez, ça va jamais sans la dimension critique.
Bernard Hébrard, alors il y a un regard très critique qui nous avait proposé ici. J'aimerais qu'on évoque de fait, et c'est une question qu'on avait pu évoquer dans une autre dans un autre échange au Collège supérieur, c'est la question de l'intrapreneuriat, hein. C'est-à-dire que comment dans un open space et dans une entreprise qui va vite, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on crée un espace favorable à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre au sein même d'un groupe, et comment vous avez pensé cela dans ce nouveau lieu que vous avez conçu, comment vous l'avez intégré ?
Je voudrais déjà répondre un petit peu. Quand je parlais de guerrier, je ne parlais pas de guerrier au sens de partir à la guerre, au sens de porter l'entreprise, d'adhérer à l'entreprise et de la faire avancer comme une locomotive tous ensemble. Alors j'ai pris on prend ce terme de guerrier parce que le terme de guerrier, c'est on est tous ensemble. Mais on n'est pas porteur de choses, enfin de pensées malsaines. C'est simplement un projet d'entreprise et avec l'envie d'y arriver. Voilà, le mot guerrier, c'est avec l'envie d'y arriver. Mmh. Ensuite, vous avez parlé de plus on monte dans les étages,
plus la moquette est épaisse.
Plus la moquette est épaisse, plus les tasses ne sont plus en pyrex. C'est pas le terme que vous avez employé. Alors, il se peut que dans certaines sociétés, ça soit comme cela. Mais je pense que là aussi, c'est une vision que l'on a, tous, d'entreprise. Mais dans les entreprises modernes, notamment, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de Dani Alu, société que je connais par ailleurs. Toutes ces sociétés qui créent des emplois, qui arrivent, cette notion n'est plus cette image d'Épinal. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Donc maintenant, vous m'avez posé la question, comment j'ai conçu ces open space, c'est bien ça ?
Créer des espaces pour qu'ils soient favorables à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre au sein même d'un grand groupe.
Alors, lorsque l'on est en open space, si on a peur de la critique, alors tout d'abord, quel que soit le niveau que vous dans l'entreprise, les gens critiquent l'entreprise, quel que soit le niveau. Mais ils le critiquent entre eux, de façon basse, à voix basse, mais ce n'est pas parce que plus on monte, moins on critique. Là, je ne suis pas d'accord. C'est dans la nature du français, pour moi, de critiquer. Et c'est très bien.
C'est structurel.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire de la critique positive, même entre nous. Même entre nous, on n'est pas d'accord avec certaines choses, on critique. Et puis, si c'est une critique positive, elle va arriver à transpirer et petit à petit à monter la hiérarchie. Enfin, je ne veux pas dire naturellement, mais presque naturellement, si c'est une vraie critique. Maintenant, comment cet espace fonctionne ? Vous savez qu'il y a des ratios, on ne va pas parler de calcul, etc. Vous allez à la sécurité sociale. Enfin, sécurité sociale, c'est aussi une image. Quand on construit, on donne comme instruction à l'architecte, il faut tout confondu, sanitaire, espace, réception, etc., un mètre carré pour 12 personnes. Non, une personne, pardon, pour 12 mètres carrés. Oui, je vous remercie. Là, chez GL, il y a 21 mètres carrés par personne. Et il y a des endroits de travail qui sont assez denses, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'endroits où, lorsque vous vous déplacez, où vous respirez, où votre bulle, comme vous parliez tout à l'heure, où votre bulle peut rejoindre la vôtre tout en marchant. Il y a des gens qui discutent de partout. Mais il faut laisser effectivement ces espaces aux gens.
Maria Dillon, on le sent, c'est complexe. Il y a différents courants de pensée sur l'espace de travail.
Oui, tout à fait. Mais je crois que cette notion de surface et de... Et d'espace, elle est primordiale. Et c'est effectivement la même démarche que j'ai entendue chez Dani Alu pour en reparler. Ce besoin, cette envie de donner aux gens qui travaillent là un peu plus d'espace que le minimum vital.
Mais en tant qu'architecte, justement, qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est complexe, justement, dans l'idée de concevoir un espace de travail par rapport à d'autres espaces ? Je pense à un lieu d'habitation, par exemple.
Je ne sais pas si c'est plus complexe, je ne pense pas. C'est tout aussi... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est d'écouter des besoins et de les transcrire en espace.
Bruno Roche, on arrive au terme de nos échanges. On sent, et on a pu l'entendre dans votre dialogue avec Bernard Hébrard, que ces questions d'espace de travail cristallisent beaucoup de choses que dans la pensée, enfin, j'ai envie de dire, malgré l'évolution de la pensée managériale de ces dernières années, où on pensait, grâce à cette pensée-là, et qui se traduit notamment dans l'architecture, apporter énormément de bien-être aux gens et aux travailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Alors, effectivement, et on s'aperçoit qu'en plus, notre monde est de plus en plus complexe. On évoquait le rapport au temps, le rapport à l'espace, qui plus est la mondialisation. Est-ce que, justement, on est en train de sortir d'un monde où il n'y a en fait pas forcément de modèle, et où on va plus vers quelque chose qui est de l'ordre de la... peut-être de la personnalisation qu'évoquait Maria Dillon tout à l'heure.
Alors moi, je crois que ça, c'est très juste. On va vers une plus grande diversité, une plus grande différenciation. Et l'efficacité, je préférerais dire l'efficience, en fait, c'est celle des systèmes. Et donc, au fond, il n'y a pas un modèle, pas même un modèle managérial. On met un peu d'huile sur le feu pour que notre débat ne ronronne pas, mais il n'y a pas un modèle managérial, il y a des systèmes efficients, et il revient, je crois, aux équipes, aux managers, à l'architecte aussi, et au maître d'œuvre, maître d'ouvrage, de déterminer quelle est, dans cette situation donnée, pour tel métier donné, l'efficience maximum. Il y a cependant, je crois, une contrainte dont on ne pourra plus faire l'économie, nous en avons parlé ici au Collège supérieur dans une conférence précédente, c'est la problématique du bien-être. De toute manière, cette problématique-là, elle est constante, elle est cruciale et elle est appelée à se développer et à prendre des formes de plus en plus juridiques.
Merci beaucoup à vous trois de nous avoir aidés à comprendre cet enjeu de l'espace de travail et de sa construction. Il y avait avec nous donc Marie Adilon, architecte, qui a réalisé notamment la maison des avocats de Lyon, ou les ateliers Daniel Hu ou les Maristes. Bernard Hébrard, directeur immobilier de GL Events, le leader mondial de l'événementiel, dont le siège international est à Lyon. Et puis Bruno Roche, philosophe, agrégé de philosophie, directeur du cycle de conférences vie professionnelle, quelques repères au Collège supérieur. Merci à Benoît Lotte, qui était à la technique aujourd'hui. Pour plus d'informations sur ce cycle de conférences vie professionnelle, quelques repères et tous les cycles de conférences d'ailleurs du Collège supérieur, rendez-vous sur le site internet www.collegesupérieur.com. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter ou partager avec vos amis cette émission, partagez le podcast depuis notre nouveau site internet www.rcf.fr. Bonne fin de journée à l'écoute des programmes de RCF.